Marc m'a demandé, vendredi, on a fait une réunion de prière dans le bus, là, parce qu'on en fait de temps en temps, des réunions de prière, et il m'a demandé de venir apporter la parole et de parler, de venir vous parler d'un sujet moi, qui me préoccupe beaucoup, mais je suis sûr que ça vous préoccupe aussi, du réveil. Mais pas n'importe quel, pas le réveil, la montre et tout ça. Le réveil, mais même pas que le réveil des non-chrétiens, de ceux qui vous allez évangéliser là demain, là. Le réveil des chrétiens. Amen. Et le réveil des chrétiens. Non, l'Église. Parce que le premier réveil, c'est l'Église. Parce que l'Église, est, bon, je parle de l'Église universelle. Hein. De tout temps, elle a tendance à s'assoupir. Pourquoi? C'est simple. Parce que, parce que dès le début, on a vu que l'emprise, elle a été faite par le prince de ce monde. Le prince de ce monde, on le connaît, hein, Satan. Et on va voir à travers les lectures que je vais vous proposer que Dieu nous a donné le pouvoir de les combattre. Mais on voit que dès le début, je vais vous lire les deux premiers versets de la Bible, c'est pas beaucoup, hein. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des yeux, sur la surface des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était déjà là. Hein. Le Saint-Esprit était déjà là, dès le départ. Donc on voit que le Seigneur était présent, et on sait que le Seigneur et le Fils étaient présents aussi. Père, Fils et Saint-Esprit, et ça c'est notre credo. Donc le problème de l'Église aujourd'hui qui est endormie, là, l'Église en général, c'est vieux depuis que l'Église existe. Parce que si on regarde le peuple hébreu qui a reçu la parole, dès le début, on voit Moïse, bon, il sort d'Égypte, et Moïse les conduit, Dieu leur parle sur le mont Sinaï, et qu'est-ce que Moïse monte 40 jours là, et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte ce que l'on a maintenant dans les poches, mais qui était beaucoup mieux que ce que l'on a dans les poches, c'est-à-dire des tablettes. Voilà. Nous on a des tablettes. Alors moi je suis équipé, j'en ai deux. J'en ai deux et je vais vous dire, bon, c'est plus moderne que les tablettes de Moïse, mais les tablettes de Moïse, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce qu'elle n'avait qu'une seule application, c'est les commandements de Dieu. Nous, on est avec plein d'applications, il y a le pire et le meilleur. Il y a le pire et le meilleur, mais Satan, il est très fort. Il vous vend tout, hein. Il vous vend tout. Et le pire, c'est lui le chef du pire. Donc, pour dire que à ce moment-là, quand il est monté sur Mont Sinaï, 40 jours quand même, hein, et c'est Dieu qui a écrit avec son doigt, donc il savait écrire, bon, c'est lui qui a créé l'écriture. Mais quand il est redescendu, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? Ils avaient déjà fait un veau d'or. Un veau d'or. Ils avaient déjà fait un veau d'or. Le peuple avait besoin d'un Dieu. Et ne croyait pas que le Dieu créateur existait. Et ça, c'était toute la difficulté de Moïse de les tirer là pendant 40 ans pour leur montrer, à les amener à leur terre promise. Ils ont douté. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église, elle est pareille. Elle doute de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui nous est donnée, Jésus nous dit, vous croyez en moi et vous ferez les mêmes choses que moi et même davantage. Pourquoi ? Parce que moi, je prie, j'intercède auprès du Père. Et l'Église l'a oublié. L'Église, elle pense que ces choses-là, c'était du temps de crise. Bon, c'est pas mal d'histoire, mais c'est un peu vieux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Qu'on peut faire les mêmes miracles qu'il a fait en son nom. Tout est fait en son nom, au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est le qui fait que la puissance des ténèbres ont été soumises à Jésus parce qu'il les a vaincus à la croix, bon, on le sait, c'est bien de le rappeler quand même. Donc, je pense qu'il y a, dans l'Église en général, elle est timorée parce qu'elle est dans la complexité de nos tablettes. C'est-à-dire, vous avez, au début, il y avait simplement eh bien, les 10 commandements. Aujourd'hui, vous regardez, vous pouvez tout avoir. Dans peu de temps, on fera des frites, peut-être, avec ces appareils-là, virtuels, hein, sûrement. Mais on peut tout avoir. Il faut rester à l'essentiel. Et le problème du peuple chrétien, comme du peuple juif, c'est de s'éloigner de la parole de Dieu. Dès qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on invente des choses qui ne sont plus la réalité et on va vers des idoles. Alors, donc les 10 commandements, vous les connaissez, on ne va pas les relire, mais vous les connaissez. Ils ont été donnés. Donc ça, c'est les tablettes. Sachez qu'elles sont sur votre tablette, là, sur votre téléphone portable. Vaut mieux regarder ça, écouter ça, lire ça, que de lire toutes les bêtises qu'il y a. Mais prenons l'histoire du peuple hébreu et de Jéroboam. Jéroboam, c'est un roi que Dieu a voulu après Salomon. Salomon, David, ça a été le roi des rois, qui est fidèle à Dieu jusqu'au bout, même s'il a chuté aussi, il a pété des plombs, même, hein. David a pété des plombs, mais il est venu se repentir. Et il s'est repenti toute sa vie. Et quand on voit ce qu'il a écrit, c'est merveilleux. Bon, il a eu un fils, Salomon, qui avait une grande sagesse, qui a été extraordinaire pendant le début de sa vie, mais qui a aussi pété des plombs, parce que, vous connaissez sa vie, avec toutes les femmes qu'il a prises, et il est allé adorer d'autres dieux. Et donc, Dieu l'a déchu, il l'a gardé jusqu'à la fin, et au lieu de mettre son fils, Roboam, pour au niveau du règne, Roboam n'a eu que 2 tribus, donc la tribu de Jérusalem et une autre tribu, et Jéroboam, lui qui n'était rien du tout, qui avait beaucoup de talent, Dieu l'avait remarqué, il avait beaucoup de talent, eh bien il lui a donné les 10 autres tribus. Mais ce qui est terrible, c'est que Jéroboam, il a fait pire que Salomon. Il a tout de suite fait des idoles, comme au départ, avec Moïse, il est descendu de sa montagne, il y avait déjà une idole, en or, et lui en a fait 2. Il en a mis aux 2 bouts de ses territoires en disant « Allez plutôt adorer ça qu'à Jérusalem ». Et puis, il est tombé là, et Dieu l'a déchu, et ça a duré longtemps, hein. Ça a duré 400 ans. Et dans les commandements, ce que l'on voit, c'est que Dieu a dit « Si vous me servez, je vous bénirai jusqu'à la millième génération ». Vous vous rendez compte? Millième génération. Mais par contre, si vous ne me servez pas, jusqu'à la 3e et la 4e génération, il y aura des malédictions. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, sur ces malédictions, ça paraît pas juste quand les enfants d'arrière-petits-enfants reçoivent des malédictions, ils savent pas pourquoi, qu'ils ont des problèmes, c'est des esprits qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, parce qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur. Dieu l'a dit, ça. Et ça, malheureusement, c'est pas assez enseigné dans les églises. Il y a des délivrances qui peuvent se faire. Jésus a dit allez par toute la terre, annoncez la bonne nouvelle, vous guérirez les malades comme il a fait, et vous chasserez les démons. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui le font, hein, je vous le dis franchement, hein, vous le savez aussi bien que moi. Et c'est aussi valable pour nous. C'est au nom de Jésus que ça se fait, ça. Et faire du nettoyage intérieur comme ça, quand on a eu des héritages dont on n'est pas responsable, mais bon, et voilà, c'est nos familles, on ne sait pas pourquoi on est mal, eh bien, c'est des choses qui sont pas assez explicitées dans les églises et comprises. Et il y a, on participe à une chose que certains connaissent ici, qui s'appelle Torrent de Vie, qui est un parcours de guérison pour les frères et sœurs qui ont justement des blessures à guérir. Donc c'est un parcours qui dure 4-5 mois. On aborde un certain nombre de thèmes et on est en petit groupe. Il y a deux équipiers qui sont avec trois ou quatre participants, et puis on voit des choses magnifiques qui se passent, des guérisons magnifiques, extraordinaires. C'est des délivrances et des guérisons profondes. Et ça existe sous d'autres formes. Moi, je ne parle pas anglais, mais il y a d'autres formes. Voilà. Donc, pour revenir à ce roi, on voit que l'Église, bon, le Seigneur est arrivé, Seigneur Jésus, nous on a cette grande chance de ne plus être sous la loi, mais Jésus est quand même venu, il a quand même dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, hein, je suis venu pour l'accomplir, la loi. Hein. Donc, il nous a libérés du péché naturel dans lequel on est. Mais donc, il nous a demandé de le suivre, et c'est ce que l'on fait ici, là. C'est ce que l'on fait ici. Il ne faut pas avoir peur de le suivre. Mais on voit bien que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à un moment quand il va dans le temple? Il chasse tous les marchands du temple. Le temple était transformé en business. Aujourd'hui encore, hein. Faut pas croire que toutes les églises sont claires. Hein. Dans les commandements, tu ne feras pas d'image taillée. Hein, pour les adorer, pour devenir des idoles. Bon, l'Église catholique, elle est pas complètement sortie de ça, hein, faut être clair. Hein. Bon, même s'il y a un grand mouvement de réveil dans l'Église catholique, et moi je me réjouis, je viens de l'Église catholique, alors, je peux en parler facilement. Hein. Je suis baptisé, moi j'ai les deux baptêmes, bon, voilà. Bon. Mais je crois que j'avais pas compris l'Évangile dans l'Église catholique. C'est pas en allant. Bon, je l'ai compris parce que le Saint-Esprit me l'a fait comprendre. Quoi. Voilà. Donc, pour dire que notre responsabilité de chrétien, elle est de prier pour le réveil spirituel des églises. Et moi, j'ai un exemple que vous connaissez sans doute certains. Qui était un pasteur donc qui est décédé maintenant, un pasteur anglais, Derek Prince, qui a écrit beaucoup de livres. Il était enseignant au moment de avant la guerre, il était enseignant, et après d'ailleurs, et il s'est converti pendant la guerre, et il a été en fait dans ses livres là contre l'armée de Rommel en Libye. Il y avait l'armée anglaise était là. Et elle était en retrait. Et lui, il était infirmier. Il dit, moi, j'étais son ambulance, il traversait les déserts de Libye. Un désert, moi, je vais vous dire, j'ai vécu en Arabie Saoudite, 70 degrés au soleil. Hein. 70 degrés au soleil, quand vous êtes sous la tôle, quand vous êtes sous la tôle d'une voiture, et ils avaient le droit, le soir, par jour, un demi-litre d'eau. Par contre, il dit, tous les officiers, parce que bon, lui, il était officier, hein, les officiers, le soir, ils pouvaient, dans leur whisky, mettre tout ce qu'ils voulaient comme eau. Hein, tout ce qu'ils voulaient comme eau. Alors, il était très. Alors, c'est là qu'il a prié. Il dit, Seigneur, tu peux pas. S'il connaissait bien l'armée anglaise, il connaissait les officiers, parce que sa famille était là. Et il a prié. Il a prié pour que le commandement de cette armée anglaise soit changé. Sa petite Jeep, vous imaginez, sa petite voiture. Hein. Donc derrière, ils avaient Rommel. Rommel, c'était l'armée la plus puissante d'Allemagne. Rommel, c'était le général allemand le plus puissant. Mais c'était une stratégie anglaise. Ils allaient vers le Caire. Et lui, donc, ça a pris des semaines hein, pour avancer. Parce que dans le désert, on n'avance pas si vite qu'on croit. Et quand il est arrivé, ils avaient une radio de l'armée, on a annoncé que le commandement allait être changé. Et donc il y a eu un premier général qui est arrivé au Caire, et puis son avion s'est scratché. Voilà, ça arrive. Bon, lui, il était assez connu, je crois déjà. Mais il y a un deuxième, il était inconnu complètement, il s'appelait Montgomery. Bon, maintenant, il est très connu. Et Montgomery, c'était un chrétien. Et Montgomery, il avait deux qualités, c'était d'être un chrétien, c'était une grâce, mais il avait surtout un sens de l'organisation. Il a réorganisé le commandement anglais. Et ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné cette bataille contre Rommel. Et ça a fait gagner la guerre. Parce que derrière ces batailles-là, il y avait les puits de pétrole, Et celui qui a le pétrole, il a le pouvoir, il a la guerre. Donc c'est pour dire que... alors, lui, il priait dans sa petite Jeep et il priait comme vous, hein, en demandant au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, lui dit, bah, tu vois, j'ai répondu à ta prière. J'ai répondu à ta prière. C'est pas une petite prière. Hein, c'est quand Jésus dit, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez déplacer des montagnes. Eh bien, là, c'était une montagne terrible. C'était la victoire sur l'ennemi, sur le nazisme. Et ça, bon, sans doute que d'autres priaient aussi, il n'était pas tout seul. Mais le Seigneur lui a dit, voilà, il lui a dit ça. Donc c'est pour dire que, pour vous donner un peu d'espoir sur la puissance de nos prières. Il ne faut pas croire que nos prières, non, c'est pas assez, on est tout petit, c'est pas vrai. Non, s'il faut le faire avec de la foi, le Seigneur dit, si vous n'avez pas la foi, ça ne sert à rien de me le demander. Mais demandez-le-moi avec persévérance, demandez-le-moi en pleurant s'il le faut, demandez-le-moi dans les larmes. Réunissez-vous, souvent les grands réveils ont commencé par deux ou trois personnes, mais par la prière. Un réveil ne peut pas commencer autrement que par la prière. Parce que le combat, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat. Nous, on n'est que les chantres de l'Éternel, et on l'a entendu là. Nous, on est là pour accompagner. On l'accompagne par la louange, l'adoration, par l'intercession aussi, hein, par la compassion, par l'amour du prochain, par l'amour des autres. Et là, je pense que nous verrons des choses magnifiques. Pour le réveil, moi, je vous encourage à prier pour le réveil de l'Église en général, que ce soit les églises catholiques, protestantes, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Voilà. Que l'on prenne conscience de cela. Parce qu'une armée, vous voyez comment la réorganisation de l'armée anglaise, si cette prière avait été faite autrement, en disant au Seigneur, fais-nous gagner la guerre. Non, il est allé au bon endroit, Derek. Derek Prince est allé directement au bon endroit. Il a dit, il faut changer le commandement. Lui, il le voyait. Il fallait changer le commandement, il fallait changer les têtes. Et souvent, dans les églises, il faut changer les têtes. On le voit bien, c'est pour ça qu'il faut que l'on prie. En ce moment, on est en campagne électorale. Et Paul le disait déjà à Timothée, priez pour les autorités, c'est pas nouveau. Hein. Donc, priez pour les autorités. Il faut qu'on prie, là, en ce moment, pour les autorités, mais vous l'avez fait avant, bien entendu. Mais on a un nouveau président, il va y avoir un nouveau Parlement. On voit qu'il y a eu des lois iniques qui sont passées, la loi sur le mariage pour tous, c'est contre la parole de Dieu. Les lois, il faut regarder la parole de Dieu et voir si ça coïncide. Donc, il y a des lois qui ne coïncident pas. Après, les médias nous disent « Ah, il y a beaucoup de problèmes. » Mais elles sont la conséquence de tout ça. Elles sont la conséquence du fait que l'on passe des lois qui sont contre la volonté de Dieu. Et je pense que c'est essentiel que l'on reste sur cette parole qui est la parole de Dieu. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à prier parce que votre prière, elle est aussi importante que celle de Derek Prince. Elle est aussi importante que n'importe quelle parce que le Seigneur Jésus est derrière. Il écoute et dit, j'intercède pour vous. D'ailleurs, on peut prier non seulement en langue, mais on peut prier par des murmures inexprimables, dit l'apôtre Paul. Ah, des murmures inexprimables, c'est-à-dire que c'est l'Esprit en nous qui intercède au niveau du besoin. Donc il faut qu'on aille dans ce niveau d'intercession et de prière. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous exhorte à faire parce que demain vous allez aller à la Bastille, moi je dis alléluia, vous allez semer, mais prier. prie autant. Parce que sinon, les graines, elles vont tomber. Vous connaissez la parabole, ça tombe sur un chemin sec, ça sèche, ça tombe dans les buissons où c'est étouffé, ça tombe dans un terrain où ça commence à pousser, et puis les choses du monde font que la personne, elle retombe dans ce qu'elle a. Parce que les puissances des ténèbres, parce que Satan, on le sait, c'est le prince de ce monde. Et il a tenté Jésus 3 fois, hein, et il a tenté Jésus comme il tente le monde. Là, aujourd'hui, la grande religion, hein, la religion la plus importante, c'est le capitalisme. C'est-à-dire, cette société de consommation à outrance, ici, hein, parce qu'il y a 2 milliards qui crèvent la faim, hein, donc on mange une partie, mais... C'est l'organisation, on ne va pas se culpabiliser, c'est l'organisation de ce monde par rapport à la finance comme il est fait, puisque Satan a dit à Jésus la 3e fois, là, lui a dit si tu t'agenouilles devant moi, toutes ces richesses-là, tu les vois, sont à moi, je te les donne. Jésus, il n'a pas dit, oh là, attends, c'est pas à toi, c'est à moi, ça. Non, non, il n'a pas dit. Hein, il lui a dit, tu honoreras ton Dieu seulement. Tu honoreras ton Dieu seulement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, il est sous la domination de Satan. La preuve, le Notre Père, qu'est-ce que c'est ? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté vienne. Ben, si elle doit venir, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc, qui règne ? Oui, que ton règne arrive. Que ton règne arrive. Donc, ce n'est pas arrivé. Donc, on voit bien qu'il faut avoir conscience que Satan, il est extrêmement futé, qu'il entre dans toutes les petites parcelles où il peut rentrer, qu'il est... on est le temple du Saint-Esprit. C'est Paul hein, qui le dit, mais c'est une réalité. Donc le Saint-Esprit vient en nous. Mais ça ne veut pas dire que, justement, avec ces héritages dont on parlait tout à l'heure, qu'on n'a pas des vieux héritages qui font qu'on est mal à l'aise, ouais, le temple du Saint-Esprit, mais il peut pas y avoir... Il y a des pasteurs qui pensent qu'il ne peut pas y avoir cohabitation. Mais ils n'ont jamais assisté à des séances de délivrance ou à des séminaires de délivrance. Parce que, mais il y a des personnes, elles sont sur des sièges éjectables. Moi, j'ai vu des personnes malaises. Waouh, éjectées. C'est les esprits. Et ces puissances-là, elles sont cachées parce qu'il y a un voile qui nous est donné. Mais si on veut lire la parole, c'est dit en clair dans la parole. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce qu'il a fait hein, pendant tout son ministère. Et si on peut faire davantage, l'Église ne le fait pas. Ouais, ça, c'est clair. L'Église ne le fait pas. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, moi, je pense qu'il faut aller sur cette voie-là de confiance dans le Seigneur. Voir Derek Prince, il avait aussi... Bon, il a eu beaucoup de miracles extraordinaires dans sa vie. C'était vrai un bon enseignant. Moi, je vous conseille. Il a des petits fascicules qui sont très bien, d'ailleurs, sur certains domaines. Et il disait, quand il est revenu là, de ce désert de Libye, il y avait des milliers de soldats anglais. Ils ont été... Vous savez, Jésus, il parle d'être criblé par Satan. Eux, ils ont été criblés par le sable. Alors, du sable à 70 degrés, quand vous traversez un désert comme ça, ils avaient des maladies de peau, ces Anglais, donc ils se sont retrouvés dans des hôpitaux à Londres, là, après la guerre. Après la fin de guerre. C'était terrible, c'était des mouroirs. Et lui, il dit, moi, qui m'a guéri de cette maladie, c'est pas les médicaments, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors là, vous avez des réserves. Je vous dis, là, toutes les pharmacies sont là-dedans. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se soigner, hein, non, je ne veux pas faire de concurrence, hein, mais c'est le Seigneur qui est guéri, hein, la preuve. Lui, les autres, je ne sais pas comment ils ont été, mais lui, il dit, c'est le Seigneur qui m'a guéri de ma maladie de peau. Hein, et il a d'autres exemples, il y en a un qui est aussi frappant. Bon, il était avec sa femme qui était aussi... engagé que lui dans le ministère, et elle était d'origine des pays de l'Europe. Comment ? Vers la Suède.
Danemark.
Elle était danoise. Et ils étaient là-bas, là, au Danemark, en septembre, enfin septembre. Ils devaient tourner en Angleterre, c'était après la guerre, ça. Et en Angleterre, pour une campagne d'évangélisation, un mois. Et sa femme, elle prie, et elle prie par l'Esprit, elle dit, Seigneur, permets qu'il y ait le soleil pendant tout le mois à Londres. À Londres, c'est le smog. Ils se moquent de nous. Hein. Ils en vendent, à l'époque, ils en vendaient même aux autres. Mais bon, maintenant, il y en a moins, parce qu'ils ne chauffent plus au charbon. Mais sa femme, elle a prié, ils sont arrivés à Londres, grand soleil, pendant tout le mois. Ils sont repartis, le soleil s'est arrêté. Une prière par la foi. Une prière par la foi. Et pour dire que pour prier, il y a de la place pour tout le monde. Le Seigneur écoute toutes les prières. Et c'est un homme simple comme nous qui avait un ministère comme chacun de nous. On a tous des talents. Et c'est ça aussi qui est essentiel. Et c'est là-dessus que le Seigneur va nous interroger. Vous connaissez la parabole des talents. Vous la connaissez bien. Cette parabole, bon ben, il y en a qui reçoivent un paquet, on dit « Waouh, mais il est brillant celui-là !» Des fois, il brille tellement qu'on prendrait presque des lunettes de soleil pour le regarder. C'est pas de cela que je veux parler. Non, je veux parler, moi, des vrais talents, les talents que le Seigneur nous a confiés. Et ces talents-là, le Seigneur le dit, « Attendez, vous aurez des comptes à rendre. Hein, » La parabole des talents, c'est simple, hein. On voit ceux qui en avaient reçu beaucoup, ils les ont utilisés, ils les ont dit, voilà, moi ça portait du fruit, voilà, merci, bon et fidèle serviteur. Puis le dernier qui n'en avait pas beaucoup, oh, moi je les ai mis, Seigneur, j'ai eu peur de toi, parce que je savais que t'étais quand même un peu dur, je l'ai mis sous la moquette ou dans le jardin en attendant. Et là il n'était pas content du tout, parce qu'il voulait, le fruit de son truc. Et ça c'est vrai pour toi et moi, mon frère et ma sœur. Ça c'est vrai. Pour nous aussi, et plus on utilise nos talents, plus ils se fructifient, plus ils se fortifient, plus ils deviennent grands. Et moi, je suis convaincu qu'en vous, là, chacun de nous, parlez simplement, il y a énormément de talents réunis. Et je pense qu'on peut faire bouger des montagnes, le Seigneur le dit, vous pourrez faire bouger des montagnes, mais c'est pas le Mont Blanc parce qu'il fait un peu d'ombre, parce que ton chalet non, c'est pas ça, c'est des montagnes d'incrédulité ou des montagnes contre les puissances du mal. Là, Derek Prince, c'était ça, le nazisme, c'était quand même pas, quand on voit donc c'est contre les puissances du mal, et ces guerres-là, c'est à nous de les mener. Donc il y a un passage qu'on connaît bien dans Éphésiens 6 10 on va le lire. Ben, si quelqu'un veut le lire, bon, ma foi, ça va occuper, je sais pas qui. Voilà. C'est sûr, bien entendu, les armes du spirituel, les armes 10, Éphésiens 10, oui, jusqu'à 10 à 18, oui.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Amen.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.
Voilà. On voit que ça n'est pas nouveau, hein, ça pratiquement pas tout à fait 2000 ans, mais c'était Paul donc, qui s'adressait déjà à l'Église. et c'est, ça traversait toutes les églises, et qu'aujourd'hui, c'est notre mission. C'est notre mission de combattant. On voit qu'on ne doit pas combattre contre les personnes, c'est pour ça que ça, il faut arrêter de discuter les uns contre les autres. C'est contre les puissances, contre les dominations, contre les esprits mauvais, contre les principautés. Et c'est pour ça aussi qu'il faut prier pour nos autorités, pour qu'elles ne soient pas sous la soumission de ces puissances-là. Donc notre rôle est énorme, mais sachant que c'est le Seigneur qui fait le boulot. Nous, on n'est là que des intercesseurs compassionnels, quoi. Avoir de la compassion, comme cette sœur qui pleurait dans le bus hier, elle était dans l'émotion, moi ça m'a ému beaucoup, mais dans la joie, j'étais joyeux parce que je sentais qu'elle avait vraiment de l'amour pour ses âmes, pour ceux qui passaient sans se rendre compte qu'ils étaient perdus. Et donc moi c'est ce que je vous propose aujourd'hui pour ce réveil demain de ceux qui passent, mais dans les maintenant même, et c'est pour ça que je voudrais qu'on le fasse même maintenant, mais c'est peut-être un peu juste, non ? C'est bon, pour qu'on prie pour le réveil de l'Église en général, pour notre réveil personnel. Voilà, parce qu'il faut se mettre dedans, on fait partie de l'Église, on a tous besoin d'être réveillés sur les choses, c'est le but de ces réunions, et d'avancer ensemble. Donc moi, ce que je veux vous proposer, mais vous pouvez vous installer ou rester assis, mais vous pouvez essayer de vous agenouiller, si vous le pouvez, mais on va rester assis, pour que chacun puisse prier selon l'esprit. Parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est la Pentecôte symboliquement, mais le Saint-Esprit est présent avec nous, le Seigneur est présent avec nous, là. Ça, c'est une certitude. Donc, moi, je vous propose de prier de manière inspirée par l'Esprit pour les églises et pour vous-même.